Radio Okapi.
À la une de l'actualité, à Ituri, environ 10 000 déplacés sont déjà retournés depuis le mois de janvier dans leur village, dans les groupements Basounou. Nous sommes dans les territoires d'Irumu. Selon les autorités coutumières de la région, ce mouvement de retour est dû notamment à l'amélioration de la sécurité dans cette entité. La situation de la variole des singes ou monkeypox est préoccupante en RDC avec plus de 11 000 cas et plus de 400 décès depuis le début de l'année 2024. Alerte donnée par l'ancien ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbungani, qui dit craindre que la RDC soit déclarée pays à risque de santé publique de portée internationale. Notre invité est le président du Parlement des jeunes de la ville de Beni au Nord Kivu. Samuel Donkatembo Sekanabo nous parle des résolutions prises lors d'un dialogue que sa structure a organisé mardi et mercredi sur comment lutter contre la violence pendant les manifestations dites au départ pacifiques. Mesdames et messieurs, bonjour. À Ituri, environ 10 000 personnes déplacées sont déjà retournées depuis janvier dans leur village, dans le groupement Basounou, chefferie de Basili. Nous sommes dans les territoires d'Irumu. Ce mouvement de retour est dû à l'amélioration de la sécurité dans cette entité et l'accompagnement du gouvernement et ses partenaires pour leur réinsertion, déclarent les autorités coutumières locales. Plus de 100 familles ont bénéficié hier des tôles pour la construction des abris qui ont été détruits par les groupes armés. Isaac Remo.
Cet afflux de retournés est observé dans une dizaine de localités dont Kamagolo, Mateumba, Kinga et Kela dans les groupements Basounou proches de Komanda à 75 km au sud-ouest de Bounia. La plupart de ces personnes ont trouvé leurs maisons détruites ou incendiées par les groupes armés ou encore endommagées suite aux intempéries. Selon les autorités coutumières locales, ces retournés vivaient dans des conditions très précaires. Face à ces défis, une coopérative minière locale a remis samedi 1200 tôles aux habitants des villages de Kinga et Kela ainsi que des sacs de ciment pour la construction d'une structure sanitaire en réponse au cahier des charges de la communauté. Cette entreprise a également réhabilité la route des dessertes agricoles pour désenclaver les milieux, ajoutent les mêmes sources, ce qui permet à cette population de construire des abris et de relancer les activités agricoles pour leur insertion. Les chefs locaux expriment sa satisfaction et encouragent d'autres déplacés à retourner.
Les gens se sont dispersés depuis plusieurs années à cause de l'insécurité. La paix est revenue, nous sommes contents de retourner. Nous avons réussi des ciments et des tôles pour la construction des centres de santé et des abris. Nous demandons à tous ceux qui ont fui de retourner. Ces retournés sont venus des grandes agglomérations de Mambasa, Komanda et Bounia. Ils sollicitent l'accompagnement du gouvernement et des humanitaires à travers des projets de solutions durables en faveur des milliers de sinistrés dans cette entité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Toujours à Ituri, environ 200 enfants orphelins victimes des exactions des groupes armés vivent dans des conditions déplorables dans les territoires de Mambasa. La plupart de ces mineurs sont répertoriés dans les rues et marchés de Mambasa Centre. Selon les résultats d'enquête effectués par la coordination territoriale des comités des personnes déplacées de Mambasa, publiés vendredi, ces enfants non accompagnés, dont l'âge varie entre 5 et 15 ans, sont parfois utilisés pour des petits travaux dans les restaurants et pour le transport de marchandises dans les marchés en violation des droits de l'enfant. À cause de l'absence d'un orphelinat à Mambasa, cette structure appelle le gouvernement et les organisations non gouvernementales à intervenir pour encadrer ces enfants qui, selon elle, constitue un danger permanent pour la société. Justin Apekapo, son coordonnateur, est au micro de Martial Kizabiamungu.
Ces enfants sont des déplacés qui sont ici à Mambasa, à Satre. Leur condition de vie est tellement chaotique. Nous alertons aux autorités, mais aussi à toute personne animée de bonne volonté, de venir en appui vers ces enfants parce que leur condition de vie est tellement chaotique. Vu qu'ici à Mambasa, nous n'avons aucun orphelinat, et l'encadrement de ces enfants nous échappe, nous, étant que la coordination des déplacés. C'est pourquoi nous alertons à tout d'assister ces enfants, voire même l'encadrement de ces enfants. D'ailleurs, nous plaidons de créer un orphelinat ici à Mambasa Satre, parce que sinon, si la situation va continuer ainsi, ces enfants risquent d'être un danger pour la communauté.
Nous le disions dans les titres, la situation de la variole des singes ou monkeypox est préoccupante en RDC avec plus de 11 164 cas et 447 décès depuis le début de l'année 2024. C'est l'ancien ministre de la Santé qui tire la sonnette d'alarme dans une vidéo publiée sur son compte X. Dr Jean-Jacques Mbungani dit craindre qu'à cause de cette flambée des monkeypox que la RDC soit déclarée pays à risque de santé publique de portée internationale. Cela à cause notamment de la proximité des provinces du Nord et Sud Kivu très touchées avec plusieurs autres pays, notamment le Rwanda et le Burundi. Il appelle urgemment le gouvernement souminois à s'impliquer dans les plus brefs délais pour sauver des vies. On écoute Dr Jean-Jacques Mbungani dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Nous craignons, et ça je tire la sonnette d'alarme, que la maladie soit déclarée comme un problème de santé publique à portée internationale. Si elle est déclarée comme problème de santé publique à portée internationale, donc il y aura un regard des organisations internationales plus accru. Parce que nous sommes à la frontière avec le Rwanda et le Burundi, parce qu'il y a beaucoup de cas signalés au site. Le ministère de la Santé devrait suivre ça de près pour pouvoir protéger nos populations. La riposte est importante. Là où vient le rôle de tous les acteurs dans le mécanisme pour barrer la route à la circulation du Mpox. Il faut faire un effort pour améliorer la coordination et la mobilisation des ressources afin d'accompagner les provinces par les experts. Mais nous devons aussi faire un effort. Il faut une formation des experts pour que, au niveau provincial, la prise en charge soit efficiente.
Rendons-nous au Maniema pour parler du lancement officiel qui a eu lieu le jeudi de l'enquête sur les conditions de vie des ménages. Cette activité menée par l'Institut national des statistiques, INS, se réalise à travers les 26 provinces de la RDC. Dans son discours à cette occasion, le directeur provincial de l'INS, Maniema, fait savoir que l'objectif de cette opération est de produire des données statistiques sur les conditions de vie des ménages à présenter aux décideurs. On écoute Herman Yalichomba au micro de Florence Kizalunga.
Au niveau de la province du Maniema, l'enquête sur les conditions de vie des ménages va être menée à travers tous les 7 territoires et toutes les 3 communes urbaines, en ciblant bien sûr les ménages échantillonnés. Et c'est grâce à cette opération d'ordre technique et d'envergure nationale que les décideurs politico-administratifs, les planificateurs de développement, les chercheurs scientifiques et les populations elles-mêmes auront à avoir les indicateurs statistiques, notamment sur la pauvreté en RDC, les pourcentages de chômage dans les pays, le niveau du pouvoir d'achat des Congolais, la proportion des Congolais qui accèdent à l'eau des boissons de qualité, à l'électricité, au logement décent, aux installations hygiéniques bien aménagées, à la scolarisation des bases et à l'alphabétisation des adultes, etc. 3 superviseurs venus de la direction générale de l'INS s'occuperont de la formation technique des candidats enquêteurs pendant 21 jours pour les travaux de terrain.
Merci d'écouter Radio Capitale, la province du Tanganyika. Sachez que la ville de Kalemie sera privée d'énergie électrique à partir de demain, lundi 22 juillet. Cela durant 10 jours. Et pour cause, des travaux seront effectués à la centrale de Bendera pour la réparation d'une pièce de la turbine. Mais quelles sont les dispositions prises par la SNEL pour alimenter les points stratégiques de la ville de Kalemie pendant cette période? Paul Mounanga.
Au cours de la conférence de presse de ce vendredi à Kalemie, le chef des divisions production et transport Bendera annonce que la SNEL a 2 groupes électrogènes dans la ville de Kalemie. Et en cas d'interruption de l'énergie électrique, la société a l'habitude de démarrer les 2 groupes électrogènes pour alimenter les points stratégiques de la ville comme les hôpitaux, les morgues, les gouvernorats, la régie des eaux. Marcel Sagalikaite souligne malheureusement que ces groupes électrogènes sont en panne. Ainsi, il demande aux partenaires de la SNEL de prendre des dispositions pour faire face à ces problèmes.
Il y a des notes qu'on a écrites et envoyées à tous nos clients potentiels. Donc, l'hôpital général qui a une morgue doit prendre les dispositions d'avoir un groupe électrogène pour pouvoir alimenter la morgue pendant ce temps. La régie des eaux doit prendre aussi ses dispositions pendant ces 10 jours pour continuer à fournir l'eau à la population.
À la régie des eaux Kalemie, les responsables annoncent que le groupe électrogène dont dispose la société est aussi en panne. Pour l'instant, aucune solution de rechange n'est encore envisageable pour alimenter la population en eau potable. Toutefois, les responsables disent avoir déjà pris langue avec les autorités de la province à ce sujet. Kalemie, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Et ici à Kinshasa, le ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise a visité ce samedi Njili, l'industrie brassicole Jokol. Louis Kabamba Watum voulait palper du doigt les réalisations de cette jeune unité de production dans la mise en valeur des produits agricoles, notamment leur transformation en produits finis. On l'écoute dans cet extrait choisi par Étienne Lissoumbo.
Les obstacles sont nombreux. Il y a d'abord le manque d'énergie. La deuxième chose, c'est le manque d'infrastructures appropriées. Il y a une troisième chose, et cela m'a énormément... ça a été un de mes plus grands combats. Et le climat des affaires pose problème chez nous. La fiscalité, la parafiscalité qui s'applique aux entrepreneurs, aux affaires, aux industriels, au point où on passe à des saisies de comptes parfois, c'est un terrorisme fiscal qui se fait. Tout ça n'est pas de nature à favoriser les affaires. Voilà les quelques obstacles. Je vais quand même ajouter un dernier parce que dans la vie, ce n'est pas toujours la faute des autres. On regarde aussi sa part de responsabilité. Quand je regarde beaucoup de nos entrepreneurs, ils ont la volonté de devenir des entrepreneurs, des industriels et autres, mais on ne le dit pas souvent, la culture de l'entrepreneuriat, qui est pourtant critique, manque souvent. L'éducation financière, économique dont ils ont besoin, manque souvent. Et c'est comme ça que vous allez entendre tous les entrepreneurs vous dire « Le plus grand problème, c'est le manque de capitaux, l'accès aux capitaux. » Mais je m'excuse de vous contredire. Le plus important, ce n'est pas l'accès aux capitaux. Oui, l'accès aux capitaux est important, mais le plus important, c'est cette culture-là, où vous comprenez que vous allez d'abord compter sur vos propres forces.
Par ailleurs, au Kassai oriental, plus de 800 ménages habitant le quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba sont sommés de quitter incessamment les lieux pour faciliter la poursuite des travaux de construction de l'aéroport international de Mbujimayi. Dans un communiqué publié le 17 juillet dernier, le maire de la ville annonce pour bientôt les démolitions des maisons construites sur l'emprise de l'aéroport en expropriation pour cause d'utilité publique. Esther Dalafina.
Dans ce communiqué, l'autorité urbaine indique que, conformément au rapport de la commission, les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba, débutés depuis 2022, ont subi un retard considérable dans leur exécution suite à la lenteur préjudiciable de la libération des parcelles concernées par l'expropriation. Pour le maire, la non-libération rapide de ces parcelles amène l'autorité à recourir à des mesures de démolition forcée des immeubles, compris dans le périmètre concernés par l'expropriation, raison pour laquelle le maire de la ville demande aux propriétaires des maisons de procéder volontairement à la démolition pour récupérer les matériaux de construction. Signalons que les 800 familles ont toujours contesté cette expropriation, justifiant leur position par le non-respect de la valeur marchande de leur parcelle. Pour harmoniser cette situation, le gouvernement provincial leur a remis au mois d'avril dernier des jetons pour leur attribuer des parcelles dans la période de la ville. Toutes ces mesures semblent ne pas produire les résultats attendus par les autorités provinciales, l'entreprise chargée de moderniser l'aéroport et la régie des voies aériennes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Cette autre information, le territoire des Luozi est entouré par le fleuve Congo. Cet enclavement occasionne le pourrissement des produits agricoles à cause des perturbations des traversées par bac. Luozi ne dispose que d'une seule voie terrestre à partir du territoire des Sekibanza. Nous sommes dans la province du Congo central. Jean Kinavuidi, un des notables du territoire des Luozi qui l'affirme, indique que cette unique voie pour accéder à Luozi par route se trouve dans un état de délabrement indescriptible. Pour répondre à la question liée à la dépendance de la population des Luozi au bac, Jean Kinavuidi plaide auprès des autorités provinciales pour la réhabilitation de la dite route. Amatadi, Nana Plurichimambo.
Selon Jean Touvingila, pour atteindre Luozi, en dehors de la traversée du fleuve Congo par bac moteur à travers quatre débarcadeurs, dont celui de Kimbemba à l'entrée du village Malangalombe, ainsi que celui de Mpioka à la cité de Mbanzangungu, il existe une seule voie terrestre. Celle-ci part de l'agglomération de Kwakwa en territoire de Sekebanza, en passant par les chefs-lieux du secteur de Nsumbi jusqu'au centre commercial de Ndomba en secteur de Kikengi à Luozi. Selon Jean Touvingila, cette route est aujourd'hui dans un piteux état. Dans les temps, c'était un trajet de 8 heures, mais aujourd'hui, il faut faire 2 à 3 jours pour les petits véhicules. Les grands véhicules, eux, prennent 1 à 2 semaines de route. D'où son appel aux autorités pour sa réhabilitation. Jean Touvingila.
Mais c'est du calvaire. Vraiment, la population souffre. Donc, c'est comme on l'a dit que tout pourrit chez nous. Parce qu'il n'y a plus de véhicules à cause de la route.
La réhabilitation de cette route va limiter la dépendance de la population au bac moteur, aujourd'hui sujet à des pannes récurrentes dues à sa vétusté, car il est mis en service depuis 1997. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi dans la ville de Djibo, située à 200 km au nord de la capitale, pour dénoncer la dégradation de la situation sécuritaire et les blocus de leur ville. Le Nigeria a annoncé poursuivre la plateforme américaine Meta pour le non-respect de la protection des données et sur les lois sur la protection des consommateurs et de la vie privée. Le Nigeria réclame notamment 220 millions de dollars de pénalités aux géants américains.
L'invité.
Il s'agit de Samuel Donkatembo Sekanabo, le président du Parlement des jeunes de la ville de Beni au Nord Kivu. Avec d'autres structures de la jeunesse, le Parlement des jeunes de la ville de Beni a organisé mardi et mercredi un dialogue dit de cohésion sociale. C'était pour réfléchir sur les voies et moyens pour organiser désormais des manifestations pacifiques sans recours à la violence dans la ville. Samuel Donkatembo revient sur l'importance de cette activité, mais aussi sur les mécanismes mis en place pour faire respecter les engagements pris à l'issue de ce dialogue. Il s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Samuel Katembo de Sekanabo, bonjour.
Et bonjour, merci.
Pourquoi ce dialogue de deux jours à Beni avec les différentes structures des jeunes?
Nous avons tenu ce dialogue de deux jours parce que nous avons constaté que les groupes de pression, les mouvements citoyens, ainsi que d'autres couches de la population, s'est gardé déjà à chez Echa parce que il y avait déjà difficultés où toutes les manifestations qui se présentaient dans la zone et avaient déjà des conséquences néfastes parce que il y a les manifestants taximen, qui se disait que lorsqu'ils manifestaient chez eux, parfois ils étaient condamnés par une autre couche. Il y a aussi des membres du mouvement citoyen groupe de pression qui aussi à leur niveau, lorsqu'ils font leur manifestation, demandent à ce que les autres personnes ne fassent pas le travail. Or, cela est à l'encontre de l'article 26 de la Constitution qui est lu à moitié. Certaines personnes mettent en tête que la liberté des manifestations est garantie, tout en ne parlant pas que nul ne peut être contraint de prendre part à une manifestation.
Alors, qu'est-ce qui explique la violence qui a souvent caractérisé les différentes manifestations de la ville de Beni?
La violence est caractérisée par la méconnaissance des principes de loi, mais aussi par l'imbolitesse que certaines couches manifestent en eux, tout en maîtrisant même la loi. Ils veulent juste boycotter et la plupart de ces manifestations manipulées.
Dans ces canabos, les recommandations issues de ces assises sont bonnes sur papier, mais comment lutter contre les tireurs des ficelles et surtout la désinformation qui pousse souvent certains jeunes à descendre de la rue sans même savoir pourquoi ils manifestent?
Ce que nous avons pris comme décision, c'est tout, et de faire voir à tous ces jeunes que la manipulation à deux couples qui les dérangent. D'abord, le couple manipulateur manipulé. Et c'est tous ceux qui tirent les ficelles, les manipulateurs. Nous pensons que ce que nous avons fait, ça va aider d'abord à faire comprendre à l'opinion publique, à toutes les parties prenantes, que nul ne peut se laisser manipuler parce qu'il va aider la communauté. C'est juste au défaveur de la communauté.
Oui, alors, qu'ont dit les jeunes qui ont participé à ces dialogues?
Sentiment de satisfaction. Et surtout, ils ont émis le vœu de travailler ensemble. Il y a d'ailleurs un comité de suivi des actions qui est déjà mis en place. Et ce comité est composé de deux personnes ici de chaque partie prenante, mais aussi supervisé par les parlements de jeunes ainsi que les conseils urbains de la jeunesse qui prennent le lead pour encadrer toutes ces parties prenantes et pour qu'on essaie de voir si on peut mettre des actions ensemble, responsables et réfléchis, et essayer de recadrer les actions qui peuvent être négatives avant même leur exécution. Les participants ont été satisfaits. Ils ont émis le vœu d'évaluer chaque trimestre l'évolution de ce cadre de dialogue. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole des violences, mais lorsqu'ils sont déjà ensemble avec les autres, avec la société civile, avec les taximen, nous osons croire que ça va diminuer tant soit peu la manipulation et ça va diminuer tant soit peu la désinformation dans les manifestations.
Peut-être pour finir, lorsqu'on sait que certains jeunes sont manipulés, certains reçoivent même des financements pour créer le chaos lors des manifestations, comment allez-vous faire pour vérifier le respect de mesures décidées lors de ces assises?
Ce que nous allons faire pour essayer de suivre ces mesures est que d'abord, aucune manifestation ne peut être autorisée par ce groupe si ça n'a pas été vérifié. Et tout celui qui peut peut-être peut-être se laisser manipuler pour venir nous manipuler dans le cadre de concertation, il manquera ou passer. Et lorsqu'il viendra avec ses idées qu'il a reçues avec ce type-là qu'il a manipulé, lorsque nous allons essayer de voir ce que ça cadre avec la réalité du terrain, qu'est-ce que nous, population de Béni, nous trouvons dedans. Et lorsqu'on va refuser cette action parce que il y a eu d'autres effets qui n'ont pas été élucidés, il va se rendre en difficulté avec ce financier-là qu'il a manipulé. Et deux fois ou trois fois, il va finir par laisser. Et tous ces gens-là qui peuvent penser qu'ils peuvent manipuler l'agence de la ville de Béni, nous les informons que nous sommes maintenant aux acquis. Ils vont manquer qui manipuler.
Samuel de Seganabo, nous vous remercions.
À moi de vous remercier.
Le président du Parlement des jeunes de la ville de Béni est interrogé par Guylaine Kassassia. Par ici s'achève ce radio-journal coordonné et supervisé par Alain Irung et mis en onde par Mimi Kindou. Grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiocapi.net. Merci pour votre attention.